Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker de recommandations de films ou de séries pour passer le confinement, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone Sébastien Jakubowski, professeur de sociologie à l'INSPE de Lille, rattaché notamment pour son laboratoire de recherche à l'université de Lille 1, et spécialiste en particulier de sociologie de l'institution militaire. Donc bonjour.
Bonjour Alexandre.
Et vous intervenez aujourd'hui pour nous parler d'un des très 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 grands classiques du film de guerre, le film de 1998 de Steven Spielberg, avec notamment Tom Hanks, mais on l'oublie aussi, un très jeune Vin Diesel qui fait une apparition dedans. C'est évidemment Il faut sauver le soldat Ryan, qui raconte non seulement le débarquement de Normandie, mais aussi une opération autour de ce débarquement, pour aller chercher donc ce Private Ryan, parachuté derrière les lignes allemandes, parce que ses trois frères sont morts au combat, et que la mère Ryan, du fond de l'Iowa, aurait trop de peine à perdre ses quatre fils. Et il faut donc absolument sauver ce soldat joué par Matt Damon, qui n'apparaît d'ailleurs que dans la dernière partie du film, et c'est intéressant justement de voir comment le film se construit autour de ce référentiel, de cet objet, disons, absent. Alors, le film est disponible notamment sur Amazon Prime et à la demande, et vous allez nous dire ce qui paraît intéressant dans ce film. Je vais juste dire qu'il faut évidemment sans doute commencer par parler de ce qui est d'ailleurs pas en fait la première scène du film, mais la deuxième, c'est-à-dire la scène du débarquement sur les plages de Normandie le 6 juin 44. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'en y repensant là, la première scène du film, c'est la scène du cimetière où il se balade dans un cimetière devenu vieux avec sa famille. Et en fait, personnellement, c'est une scène qui concentre tout ce que j'ai du mal à supporter dans ce film, avec beaucoup de maniérisme et de mélo, et on enchaîne directement sur une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma américain, ce qui est assez représentatif de ce film qui enchaîne le sublime et, disons, le plus clivant, quoi.
Oui, vous avez tout à fait raison. Effectivement, finalement, on passe sans transition d'une scène... tourné au cimetière américain de Colville-sur-Mer, qui fait en effet écho à voilà, qui fait appel au sentimentalisme américain, ou en tout cas la manière dont les Américains aiment le mettre en scène de façon assez classique. Et très vite, sans transition, on bascule vers cette deuxième scène, qui est l'une des scènes parmi les plus longues du film, hein, autour d'une petite trentaine de minutes, et qui est celle du débarquement. Et on voit très, très vite en fait la manière dont le réalisateur Steven Spielberg a voulu, et c'est ce qui constituera l'une des marques fortes en tout cas de ce film et ce qui en fait un chef-d'œuvre en la matière, vraiment la volonté de montrer le débarquement depuis l'intérieur, de montrer le débarquement tourné et autour du capitaine Miller et de ses hommes, de montrer la violence, de montrer toutes les formes de violence d'ailleurs, de montrer aussi la manière dont les hommes sont amenés de facto en situation, sur le terrain, depuis même les premières barges de débarquement qui arrivent sur les plages de Normandie, à réagir, à surréagir, à compenser, à s'adapter, et puis à faire face à la violence froide, immédiate, à laquelle ils sont tout de suite confrontés, avant même parfois que les barges de débarquement s'ouvrent. Et c'est vrai que cette scène...
Oui, parce qu'on peut dire que, effectivement, les premiers plans... Alors, il y a le stress, mais effectivement, on entre par donc, ces barges qui s'ouvrent et qui se font littéralement découper par des mitrailleuses de gros calibre. Et c'est vraiment l'humain qui vient s'enferrer sur le fer et sur les balles. Et c'est très, très représentatif, à la fois de tout ce qu'on va voir pendant cette scène et au-delà, et en même temps de ce que Spielberg cherchait à montrer, puisque c'est un film globalement pacifiste, quand même.
Oui, et puis tout est aussi alors symbole. Vous parlez effectivement des hommes enferrés dans les barges. C'est aussi le symbole de la couleur, du rouge. Hein. On dit de la plage d'Omaha Beach que finalement le ressac de la mer avait très très vite et très tôt pris une couleur rouge. Le film y fait aussi référence, évidemment, le sang qui se mêle à l'eau. Et donc tous ces symboles-là sont très très vite et très directement activés dès cette scène. Et puis dès d'ailleurs aussi la scène de fermeture du film. Mais c'est vrai que spontanément, en tout cas dans l'immédiat, on ne perçoit pas la dimension pacifique ou en tout cas le message autour de la morale de la guerre que souhaite faire passer le réalisateur à l'issue du film ou au travers de l'ensemble du film. Les premières scènes, c'est vraiment effectivement la violence froide, brute et dure, enfin qui s'applique aux soldats dès ces premières minutes.
Ouais, et faut peut-être dire, enfin, je pense que c'est une scène qui a changé pour toujours la manière dont on filme la guerre. Tellement c'est puissant, c'est intense, c'est à couper le souffle, littéralement. Alors même qu'en la revoyant, je l'ai revue du coup, je me disais qu'il y avait aussi, enfin, c'est très Steven Spielberg, quoi. Il y a aussi des trucs qui sont presque un peu cartoonesques, tellement c'est lourd, quoi. Je veux dire, au cinquième personnage qui meurt en hurlant maman à plein poumon, on se dit que c'est bon, quoi, on a compris. Mais en même temps, bon, c'est la réalité de la guerre qu'il a envie de dépeindre. Et puis, c'est une scène qui, au-delà de ces choses quasiment caricaturales, qui est tellement puissante, qui a un équilibre tellement, qui marche tellement que c'est difficile de l'imaginer autrement, quoi.
Oui, parce qu'il y a tout en fait. Il y a le son, il y a la caméra qui bouge, il y a le suivi du soldat au moment où il avance ou des soldats au moment où ils avancent sur la plage. Et c'est vrai que aujourd'hui on le regarde avec plusieurs années de décalage et puis avec une deuxième ou troisième finalement lecture en tout cas de cette scène. Mais je pense qu'il faut aussi que l'on se rappelle la première fois qu'on l'a vue et puis la claque qu'un certain nombre d'entre nous ou de spectateurs se sont pris en voyant pour la première fois cette scène qui effectivement a marqué en tout cas d'une part la manière dont les films de guerre jusqu'à maintenant pouvaient être amenés à traiter les opérations en tant que telles, mais aussi le débarquement en tant que tel. Et je pense que là, on a vu d'une autre manière, par ce réalisateur, par ce film, en tout cas la volonté de marquer cette différence-là et cette empreinte. Alors, sous un angle qui est tout à fait spécifique, c'est l'angle américain, c'est l'angle du capitaine Miller. Les Allemands sont très peu présents, ce sont des figures qui disparaissent assez vite. Voilà, ils sont à la manœuvre évidemment de la défense de leur position, mais ils sont pas inclus en fait dans le dispositif
Mais
de
on peut dire qu'en
débarquement.
fait,
On est vraiment centré sur les Américains.
il y a à peu près personne d'autre qui est présent. C'est aussi une des faiblesses un peu historiques du film. Les Allemands, effectivement, sont assez peu présents, si ce n'est derrière une mitrailleuse ou pour exemplifier à quel point la guerre rend fou les hommes, puisque les soldats américains se mettent à massacrer des gens qui se constituent prisonniers, etc. Mais c'est aussi, enfin, il y a que des Américains, quoi. Dans tout le film, il n'y a que des Américains. Il n'y a pas de Français, il n'y a pas de Canadiens, il n'y a pas d'Anglais.
Alors, il y a la famille française
Oui, il y a la
avec.
famille, mais sous l'angle des victimes, quoi. Il n'y a pas d'autres soldats. On a l'impression que les Américains ont libéré tout seul toute la France, quoi.
Oui, et puis parmi l'ennemi, il y a un seul soldat allemand qui est présent, finalement, dans le film. C'est le soldat qui est capturé à la fin de la prise de la station radar et qui revient dans la scène finale, dans son interaction avec le traducteur embarqué dans l'escouade par le capitaine Miller. Mais au-delà de ce soldat allemand-là, je dirais, c'est vrai que les autres sont un tout global, mais leur vision, leur approche ne ressort pas spécifiquement, effectivement, du film. Et c'est vrai que c'est une des critiques fortes qui a été pointée.
Ouais, alors juste pour finir, vous avez, enfin, je pense que c'est important de souligner l'utilisation du son, des variations de son notamment pour montrer les moments où le personnage de Tom Hanks est sous le choc, le moment où les hommes sont sous l'eau. Enfin, vraiment, il y a une utilisation ça vaut la peine de revoir cette scène rien qu'en faisant attention à la bande son parce que c'est vraiment très brillant. Et juste souligner que voilà, enfin, je pense vraiment que sans Soldat Ryan, il n'y a pas évidemment de Band of Brothers, mais il n'y a pas non plus de Jarhead, de American Sniper. Enfin, je pense vraiment que ça a changé la manière dont on filme la guerre. Mais passons donc à la suite, c'est-à-dire ce qui est quand même le cœur du film, c'est cette mission d'un petit groupe de soldats américains à travers la bataille de Normandie. Et notamment, je crois que vous vous intéressez beaucoup à la représentation des dynamiques de groupe au sein de ce petit groupe, donc de 8 soldats. Et on va peut-être parler d'abord du rôle du soldat Ryan, qui est intéressant dans ce film, parce qu'il est absent, il est peut-être mort, et cette mission est un peu, en fait, quand on revoit le film, présenté comme un symbole de l'absurdité de la guerre, quoi. Les soldats sont très conscients que ça n'a aucun sens, cette mission, de risquer la vie de 8 hommes pour en sauver peut-être un. Mais le soldat Ryan, malgré tout, fonctionne comme ce que vous décrivez, comme une sorte de catalyseur du collectif.
Oui, effectivement, le soldat Ryan, c'est... Alors d'ailleurs, son statut dans la manière dont le groupe appréhende la mission, et donc le soldat Ryan au travers de la mission qu'il leur est confiée, évolue au fur et à mesure de la mission. Effectivement, dans un premier temps, et les premiers questionnements qui se font jour parmi les membres de l'escouade retenue par le capitaine Miller, c'est effectivement l'absurdité de cette mission, pourquoi sauver la vie de 8 hommes pour essayer d'en sauver un seul. Et on voit qu'au fur et à mesure que l'escouade avance, au fur et à mesure qu'elle est confrontée à différentes épreuves, eh bien cette question s'aiguise de plus en plus fortement et de plus en plus fermement, au point que ce catalyseur qui, par son volet négatif, d'intégration négative du groupe, a pu être un élément qui, au départ, a soudé le groupe, a été à d'autres moments du film et au fur et à mesure de ses difficultés rencontrées par les soldats, un individu qui, symboliquement d'abord, a permis en tout cas de questionner le rôle de la mission, le rôle des missions, le rôle de la guerre, le rôle de l'autorité, le rôle de la régulation de l'autorité. Avant, si je vais un peu plus loin, on pourra y revenir évidemment, au moment de sa rencontre, de s'apercevoir, ou de ses rencontres, puisqu'il y en a eu au moins une qui a été avortée, puisque ça n'était pas le bon soldat Ryan, et au moment de la rencontre avec le vrai soldat Ryan, en tout cas celui qui était effectivement recherché, on voit bien que au final, il n'était pas non plus celui auquel il pouvait s'attendre, et que son comportement et son attitude qui consiste à dire « je ne veux pas partir, merci d'être venu me chercher, mais je veux continuer ma mission », finalement contribue à rejouer ce rôle de catalyseur et à ressouder d'une autre manière le groupe, non seulement autour de la mission, mais autour finalement du fait que, au travers de cette mission, c'est finalement la mission essentielle de la guerre, ou en tout cas du combat qui était mené à cette période, dans les quelques jours qui suivaient le débarquement, qui a été rappelé avec une force extrêmement vive pour l'ensemble des membres de l'escouade, puisque au final, ils font le choix collectivement, on pourrait là aussi revenir sur les modalités de régulation à l'intérieur du groupe, finalement de privilégier la mission suprême qui est la guerre, ou en tout cas qui est la défense de ce pont, au détriment d'une mission qui, sur le plan symbolique, aurait été encore plus forte, qui aurait été de mettre à l'écart le soldat Ryan et ou, d'ailleurs, de ne pas répondre aux attentes opérationnelles dans cette situation particulière. Et donc, on voit bien que le rôle joué par Ryan, c'est d'abord un rôle qui lui est donné, qui lui est attribué. C'est un rôle qui est discuté, qui est délégitimé, qui est relégitimé, d'ailleurs en grande partie par le capitaine Miller. Et puis après, c'est un individu qui fait corps, qui fait sens aussi, et dont le comportement inattendu contribue à recatalyser autour du sens et du message de la guerre et de ses missions et de ses finalités l'ensemble du groupe et l'ensemble de l'escouade.
Ouais, c'est très intéressant. Et puis c'est, en fait, c'est ouais. En fait, il s'agit de, comment dire, de symboliser, de concentrer tout le sens de la guerre, de la bataille, du débarquement en un personnage, en une individualité, qui est dans une certaine manière ce que fait le cinéma lui-même dans l'absolu, mais à travers les autres personnages de l'escouade.
Oui, et puis on voit bien la manière dont, alors bien sûr, chacun des acteurs, personnages de l'escouade s'approprie cette figure symbolique du soldat Ryan de manière différente. Mais ce qui est vraiment intéressant au travers de la manière dont le soldat Ryan est utilisé dans le film, c'est qu'il devient le vecteur, finalement, qui est rendu finalement public au travers de ce film, et bien des processus de construction de la légitimité des ordres au sein d'une unité de combat, ici réduite, et comment s'opère la régulation entre les hommes, entre le groupe et entre l'autorité du capitaine Miller, pour finalement, et au bout du compte, malgré les épreuves et malgré les morts des membres du commando, à atteindre la mission qui est définie, la mission qui est attribuée à l'ensemble du groupe. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir comment le groupe s'autorégule, comment le capitaine
Ouais,
Miller
mais c'est
distribue
ça,
la
il faut
parole.
peut-être en parler maintenant. C'est-à-dire, il y a un autre truc qui est très intéressant dans ce film, c'est le rôle et la représentation du commandement à travers ce personnage donc, du capitaine Miller qui est incarné par Tom Hanks. Et ce qui est. C'est intéressant parce que ça joue sur plein de registres du commandant, c'est-à-dire, il est représenté à la fois comme le commandant inaccessible, dont on ne sait rien, en même temps, le commandant qui est très près de ses hommes, parce qu'il fait la même chose que ses hommes, et aussi, on sent qu'il pense un peu comme eux. En même temps, c'est aussi un. Enfin, il y a plein de. Enfin, c'est vraiment un archétype du bon chef, du bon commandant, qui est dépeint là, et d'autant plus, et l'épreuve du feu pour ça, c'est qu'il est capable d'emmener des hommes pour une mission absurde et qui continue à le suivre.
Oui, c'est vrai qu'il symbolise finalement dans son entièreté hein, le rôle du chef, le rôle du commandant à la tête de ses hommes. Je dirais presque de bout en bout. D'abord, même pendant la scène du débarquement aussi, l'exemplarité, le courage, le suivi de la mission, le compte-rendu des ordres, la prévenance à l'égard des soldats de son groupe. Ou du moins de ceux dont il a la responsabilité, la manière dont il est investi d'une mission, puisque si on lui confie cette mission, c'est que finalement c'est quand même un capitaine remarquable, au sens où il a été remarqué, par sa hiérarchie et
Oui, ils le disent à un moment, il y a son supérieur qui lui dit, ouais, c'était une mission compliquée, mais en même temps, c'est pour ça qu'on vous l'a donnée à vous, quoi. C'est-à-dire, il y a une conscience de sa valeur très nette, et c'est pour ça qu'il se retrouve avec les pires tâches de la Terre, quoi.
Voilà, et du coup, il s'est lui-même joué de cette valeur. Alors, il en joue par une arme essentielle qui est au départ le secret sur qui il est, sur sa profession, sur sa famille, sur son lieu d'origine. Et puis finalement, on voit combien au fil de la mission, il dévoile quelques petits pans les uns après les autres de sa personnalité et de ses différents secrets pour aussi continuer à catalyser la mission, non plus seulement autour du soldat Ryan, mais finalement autour de lui, au bénéfice du soldat Ryan ou au bénéfice de la mission qu'il leur a demandé de tenir et d'atteindre. Et on voit toute son habileté dans son habileté rhétorique, son habileté dans le geste et son habileté à pouvoir manœuvrer finalement, pas manœuvrer seulement tactiquement ou militairement, mais aussi manœuvrer du point de vue managérial avec les soldats sur lesquels il a une autorité.
Oui, il y a vraiment tous les leviers de l'autorité qui sont concentrés dans ce Capitaine Miller. Il y a l'humour, il y a l'humanité, il y a l'autorité, la capacité à hausser la voix, il y a la capacité à être exemplaire et justement à aller avant les autres. Et effectivement, c'est ce qu'on voit dans la scène du débarquement, où tout le monde est bloqué et c'est lui qui se met à se lever pour emmener les autres. Ouais, vraiment, il concentre beaucoup des leviers. En tout cas, imaginer, représenter de ce que peut être un bon chef d'escouade, en l'occurrence de section, quoi.
Oui, et puis la capacité à finalement contourner un mythe qui est que dans les armées, le chef distribue les ordres et que les hommes répondent à ces ordres finalement sans les discuter. Au contraire, lui fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il voit bien que des questions se posent sur la mission et sa légitimité et la manière dont il la conduit. Eh bien, plutôt que de brider cette parole, au contraire, il l'autorise. Et au contraire, il la libère. Et au contraire, il fait en sorte que à l'intérieur des membres qu'à l'intérieur du groupe, les membres du groupe commando puissent s'exprimer, puissent faire part de leur propre point de vue, et puissent aussi, d'ailleurs, exprimer les conseils qu'ils peuvent apporter à leur chef ou à leur autorité de référence. On voit qu'il y a vraiment un binôme qui se forme avec le sergent, qui est très proche du capitaine Miller. On voit combien aussi il s'est joué de cette relation. On voit aussi comment finalement, pour aller jusqu'au bout du processus et jusqu'au bout de la logique, son exemplarité, elle le pousse jusqu'à se sacrifier pour la mission. Donc allant jusqu'au bout finalement, et même au-delà de ce qui pouvait être attendu de lui, au bénéfice du soldat Ryan. Donc en cela, il boucle vraiment la chaîne de l'exemplarité, presque de manière là aussi un peu trop peut-être caricaturale jusqu'au bout du film.
C'est un Steven Spielberg, donc ça va être toujours légèrement caricatural. Et voilà, c'est tout ça est vrai. Et puis en même temps, quand on le revoit, c'est la première et la dernière scène pour moi sont vraiment difficiles à regarder tellement ça c'est maniéré. Mais bon, Bon, je m'aperçois, soit dit en passant, qu'on a probablement spoilé ou divulgaché si quelqu'un n'avait pas vu le film. Mais en même temps, je me dis que c'est pas très grave non plus, parce que c'est pas vraiment l'intrigue qui est important. Et c'est pas, on se doute bien qu'ils vont retrouver le soldat Ryan et qu'il va se passer des trucs tragiques au milieu. Ce qui est important, c'est la manière dont c'est filmé, notamment la manière où l'attitude des hommes face au danger est représentée. Et ça, c'est vraiment totalement exceptionnel. Et c'est ce qui fait que c'est un film qui, malgré sa longueur, se laisse voir et revoir extrêmement facilement. Merci beaucoup, Sébastien Jakubowski.
Merci beaucoup pour votre invitation, Alexandre, et ravi d'avoir pu contribuer à votre émission.
Merci. Alors, je signale au passage que pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous avez consacré un chapitre à l'analyse de ce film dans l'ouvrage « Guerre et soldats au cinéma » qui est paru en 2005 chez L'Armatan. Et c'est évidemment aussi de ce chapitre que j'ai tiré beaucoup de mes questions et que ce dialogue s'est engagé. Voilà, merci beaucoup et à demain tout le monde.
A change of seasons means adventures in rain, shine, mist, or snow, or all of the above on the same day. This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. With all-condition traction and materials and features to keep you comfy and dry no matter what, you'll be ready for anything. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. Allbirds.com, code FRESHSOCKS.